Je suis dans la joie ce matin d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, toute cette semaine, nous serons en train de parler autour de ces thèmes. La parole de Dieu, socle énergique pour la transformation de l'homme et la réforme de la société. Ce matin, je nous propose rapidement trois textes. Le premier, c'est Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Le deuxième, c'est Hébreux, chapitre 4, verset 12. Un autre texte de base sera 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Hébreux 4, verset 12. Et j'insiste, notre texte de base sera 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Si vous avez trouvé, dites Amen.
Amen.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace pour trancher, plus tranchante qu'une épée, quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. L'apôtre Pierre nous montre et il insiste beaucoup sur la régénération, la transformation. Et il dit, puisque vous avez été régénérés, en d'autres termes, transformés, non pas par une parole politique, non pas par un discours humain, mais par la parole des dieux. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre que la seule chose, l'unique chose qui peut transformer la vie d'un homme, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez conseiller un homme, ne volez pas. Vous pouvez le châtier. Vous pouvez l'emprisonner, l'amener en prison. Et en sortant, il continue à voler. Vous pouvez donner un conseil, vous lui dites, mon enfant ne fait plus ceci, ne fait plus cela. Vous pouvez utiliser des psychologues, des gens qui sont des techniciens dans les discours, dans l'art de parler. Mais tant que la parole ne touche pas l'âme de l'homme, cet homme n'est pas transformé. La seule chose qui transforme l'homme, c'est la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu une chose si puissante, si forte comme la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être prêchée maintenant. Mais lorsque vous sortez, elle continue à résonner dans vos cœurs jusqu'à vous changer. Et Pierre les confirme. Il dit, vous avez été régénérés, non pas par une parole corruptible, mais par la semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Cette semaine, nous parlerons de cette parole. Si le temps nous permet cette semaine, premièrement, nous verrons quelques principes importants par rapport à la parole de Dieu. Des choses que chacun de nous doit connaître sur la parole de Dieu. Dès nous parlerons sur l'impact de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. Ce qui arrive lorsque nous recevons la parole de Dieu et ce qu'elle apporte dans nos vies. De trois, nous parlerons des avantages de l'obéissance à la parole de Dieu. J'aimerais nous dire, il y a des avantages lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Et enfin, nous terminerons par les implications de la parole de Dieu dans la marche chrétienne. Je répète, le premier point, quelques principes à savoir sur la parole de Dieu. Le deuxième point, l'impact de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. Le troisième point, les avantages de l'obéissance à la parole de Dieu. Et enfin, les implications de la parole de Dieu dans la marche chrétienne. Dans Ésaïe 55, ainsi que Hébreux, la Bible nous montre la puissance, la capacité de la parole de Dieu. Plus particulièrement, Ésaïe 55, 10 à 11, dit ceci. Elle souligne que chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, il y a des effets, il y a de l'impact. Le prophète va plus loin, il dit, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans accomplir les desseins de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prononcée, elle vient sous forme d'une semence. Et cette semence, lorsqu'elle est plantée dans nos cœurs, elle accomplit toujours des choses, les desseins de Dieu. Elle exécute les desseins de Dieu. Hébreux nous montre que cette parole est puissante. Elle va jusqu'à pénétrer l'âme. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Pénétrante jusqu'à partager l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur de l'homme. C'est maintenant la grande question que je peux nous poser. Lorsque nous lisons tous ces passages, nous comprenons que la parole de Dieu est tellement efficace, elle est tellement puissante, que lorsqu'elle est prononcée, elle doit changer des vies. Lorsqu'elle est prononcée, elle doit transformer des vies. Mais la question que je peux nous poser, pourquoi est-ce que chaque fois nous venons à l'église, nous nous assemblons, nous avons des conventions, certains appellent ça opération emblème, à d'autres on appelle convention, ailleurs on appelle, je ne sais pas, séminaire. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est annoncée au sein de nos églises, mais elle n'a pas d'impact? Pourquoi est-ce que chaque dimanche nous venons à l'église, chaque matin nous venons dans la dévotion matinale, mais la parole de Dieu ne nous transforme pas? Et pourtant, la Bible affirme que lorsqu'elle est prêchée, elle doit transformer. Pourquoi est-ce que les gens entendent des prédications, des messages qui viennent du ciel, mais ils ne sont pas transformés? Combien de prédicateurs sont montés au-dessus de cette chaire? Des docteurs en théologie, des hommes noirs, des hommes blancs, des gens qui sont venus des quatre coins du monde pour vous parler de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de changement? C'est la question que je nous pose ce matin. Et c'est sur cela que j'aimerais que nous puissions réfléchir pour introduire notre message. Pourquoi des vies ne changent pas? Demande à ton voisin, pourquoi tu ne changes pas malgré que tu écoutes la parole de Dieu? Benjamin prêche. Le pasteur Vincent nous prêche. Des évangélistes nous prêchent. Des fois même, vous investissez l'argent pour faire appel à un prédicateur qui vient de très loin. Mais pourquoi est-ce que les gens restent les mêmes? Il y a quatre raisons qui font en sorte que la parole de Dieu n'ait pas d'impact dans nos vies. Quatre raisons majeures. Et la première raison, permettez que je commence par là. C'est les problèmes au niveau de la chair. Dis les problèmes au niveau de la chair. Tout commence à la chair. à ces hommes qui viennent annoncer la parole de Dieu, à ces hommes qui viennent nous prêcher. Et là, j'aimerais m'adresser aux prédicateurs s'ils sont là. À ces hommes de Dieu, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, ministres de la parole de Dieu. J'aimerais ce matin dire une vérité que j'aime souvent dire. Prêcher n'est pas un prestige ni un privilège. Prêcher est une responsabilité. Je répète aux prédicateurs, pasteurs, hommes de Dieu, prêcher n'est pas un prestige. Prêcher n'est pas une façon de vous créer un nom. Prêcher, c'est une responsabilité. J'aimerais dire aux hommes de Dieu qu'un jour Dieu vous demandera, je vous ai donné 10 minutes, je vous ai donné 40 minutes, je vous ai donné 45 minutes pour parler à mon Père. Qu'avez-vous dit? Hommes de Dieu, attendez-moi très bien. Chaque fois qu'on vous demandera de prêcher, si vous n'avez pas quelque chose qui vient de Dieu, ne montez pas du haut de la chair. Même si vous avez les ailes, ne venez pas raconter vos histoires ici. La chair est sacrée et il faut que lorsque nous y montons, que nous annonçons les oracles de l'Éternel, la parole de Dieu vivant, le problème c'est la chair. Qu'est-ce que vous nous annoncez? Quel est ce message que vous nous apportez? Combien de fois les gens sont venus à l'église, c'est comme s'ils venaient suivre un théâtre, un homme qui saute, un homme qui crie. On n'a pas besoin des gens qui crient, on n'a pas besoin des gens qui sautent à la chaise, on a besoin des hommes et des femmes qui transmettent la parole de Dieu. Les gens ne sont pas transformés parce que nous venons faire du théâtre à la chaise. Il est temps que le théâtre s'arrête sur la chair, que les hommes montent ici pour transmettre la vie.
Amen.
Amen. Vous savez, quand vous prêchez bien, vous êtes conscient que vous prêchez bien. Un jour, je suis dans une de mon église à Bukavu. Ce jour-là, j'ai prêché, il y avait beaucoup d'amen. Alléluia, amen. Et moi, je savais, waouh, c'est final. C'est final. J'ai fini la prédication. J'ai vu comment les hommes venaient m'embrasser. Je me rappelle encore ce papa qui est venu me serrer. Il était très costaud. À l'époque, j'étais plus mince que ce que vous voyez ici. Il est venu, il m'a serré. Je voulais étouffer et il pleurait comme un enfant, un papa génial, avancé en âge. Il me disait, si mes enfants pouvaient être comme vous, mais je n'oublierai jamais. Après avoir reçu tous ces éloges, j'entre dans le bureau du pasteur. Il me fait asseoir. Il me dit, aujourd'hui tu as joué à la chair. Dans mon cœur, je dis, ah, voilà les hommes non spirituel. Comment il n'a pas vu comment les gens ont recueilli la parole, ils ont acclamé. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, ce n'est pas parce que les gens acclament que vous annoncez les choses qui viennent de Dieu. Toute acclamation ne veut pas dire l'approbation de Dieu. Il a commencé à me donner des remarques. Il dit, là tu as dit la papa et non les papas. J'ai dit, mais ça, le message est quand même passé. Il dit là, tu as utilisé un mauvais texte, tu devais utiliser un autre texte. J'ai dit, mais dans mon cœur, je disais, mais voilà des gens. Et puis à la fin, il dit, tu as prêché l'évangile des gens, l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, mais je n'ai pas vu prêcher l'évangile de Benjamin. Là, j'ai pris maintenant ma Bible, j'ai dit, voilà! J'ai dit, pasteur! Reviens faire ta théologie. Où est l'évangile de Benjamin dans la Bible? Tu ne connais pas la Bible. Et il m'a dit quelque chose qui a transformé mon ministère. Il m'a dit, ne prêche jamais les choses que tu as entendues, mais prêche les choses que tu as vécues. Et il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. L'évangile que tu apportes aux gens aura de l'impact que si toi-même tu vis ces choses.
Amen.
Combien de fois nous avons des prédicateurs qui disent, ne faites pas ceci, mais elles-mêmes font ces choses. Ne volez pas, mais elles-mêmes volent. Combien de fois j'ai vu des pasteurs se battre à cause des offrandes. Et puis ils veulent que les gens changent. Combien des hommes de Dieu viennent dans nos églises juste pour avoir des titres. Puis ils veulent que les hommes changent. Transmettez la vie. Pierre dit aux paralytiques, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, c'est Jésus-là qui est à nous, nous te les donnons. Cher prédicateur, il est temps que vous puissiez donner le Jésus qui est en vous. Ça ne sert à rien de prêcher si vous-même vous ne vivez pas ces choses. L'évangile aura de l'impact les jours où les hommes de Dieu vont commencer à transmettre la vie qu'ils ont en eux. Si vous êtes pasteur impudique, ne soyez pas étonné que vos membres soient impudiques. Il faut que les choses changent au niveau de la chair. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide ses serviteurs. Un jour, on m'invite dans un pays étranger. On était des Congolais qui devraient prêcher dans cette conférence. Et mon frère congolais m'a regardé et m'a dit, Benjamin, tu mourras pauvre. Toi, avec tes prédications ici sur la sanctification, tu mourras pauvre. Je vais te montrer le vrai évangile. On lui a donné la parole. Quand il a pris le micro, la première chose, papa, je vois que Dieu va t'amener en Chine. Maman, je vois que tu vas mettre au monde, soit une fille, soit un garçon. Dans tous les cas, ce sera soit une fille, soit un garçon. Je l'ai vu donner des fausses prophéties. Ce qui m'a étonné, j'ai vu des gens amener des offrandes. Il y a des gens qui amenaient avec 100 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars. Et moi, les pauvres qui étaient là avec mon message de sanctification, quand je me suis levé, j'ai dit, donnez mon vie à Christ. Il n'y a eu même pas un dollar. Je vais vous demander, vous, église, pourquoi vous donnez l'argent aux aventuriers, mais vous ne donnez pas l'argent aux hommes sérieux? Puis quand il s'est assis, il m'a regardé, il m'a dit, tu vois, c'est ça l'évangile. Mon nom Dieu va vous bénir. Je l'ai dit hier, vous allez aller en Chine. Vous pensez que tous ceux qui vont en Chine sont des chrétiens? Même les païens vont en Chine. Il suffit que tu aies ton argent, tu vas aller en Chine. Frères et sœurs, donnons la parole de vie aux enfants de Dieu. Et ce n'est que lorsque nous allons prêcher la vérité que les vies seront transformées. Ne cherchons pas l'approbation. Que les gens qui viennent prêcher pour avoir un nom, ils veulent que les gens le voient. Permettez que je parle de la part de Dieu. Que les gens qui viennent, chaque fois après avoir prêché, ils prennent des photos et puis ils vont sur Facebook. Oh non, j'ai guéri 5 personnes. Est-ce que moi j'ai guéri 1 personne? Je ne guéris jamais 1 personne. Nous guérissons les gens au nom de Jésus. En d'autres termes, c'est lui qui guérit les gens, c'est Jésus. Et puis je vais avancer. Lorsque Jésus prêchait, la Bible dit qu'il guérissait et puis il disait, taisez-vous. Ne le dites à personne. Mais nous, aujourd'hui, on veut que chaque fois qu'il y a un miracle, qu'on vienne ici. Non, les dieux de Benjamin. Vous n'avez pas besoin des dieux de Benjamin. Vous avez besoin du Dieu du ciel. Amen. Nous ne sommes que des simples messagers. Je ne sais pas pourquoi je sens ma télé là-bas. Parce que c'est ça le problème dans nos églises. Le messager n'est pas plus grand que le message. Je répète, le messager n'est pas plus grand. La deuxième chose qui fait que la parole de Dieu soit prêchée et que des vies ne soient pas transformées, c'est cette mauvaise conception par rapport à l'annonce de la parole de Dieu. La mauvaise conception par rapport à l'annonce de la parole de Dieu. La plus grosse erreur, c'est de laisser croire que la parole de Dieu est l'exclusivité des pasteurs, l'exclusivité des évangélistes, l'exclusivité des prophètes, l'exclusivité des docteurs. On pense que pour annoncer la parole de Dieu, il faut d'abord avoir la colle pastorale. Non! L'annonce de la parole de Dieu est l'exclusivité de tout chrétien. C'est la responsabilité de chacun chrétien. Il nous appartient en tant qu'enfant de Dieu d'annoncer la parole de Dieu. Jésus est à la fin de sa mission dans Matthieu 28, verset 19. Il veut rentrer auprès du Père, mais regardez la responsabilité qu'il laisse à chacun de nous. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Cet ordre n'est pas donné aux pasteurs. Cet ordre n'est pas donné seulement aux évangélistes. Mais cet ordre est donné à tous les chrétiens situés en pan de Dieu. Il appartient à toi d'annoncer la parole. Cela est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Dis-lui encore, ce n'est pas l'affaire de l'évangéliste. Dis-lui, c'est ton affaire. C'est notre responsabilité. On nous a fait croire que pour prêcher la parole de Dieu, il faut être évangéliste. Non! Il faut être chrétien. Et si tu es chrétien, tu dois annoncer. Vous savez, la force de l'église primitive, c'était dans l'annonce de la parole de Dieu. Ça m'étonne lorsque vous lisez Actes 8, verset 4. Alors que cette église connaît la persécution, cette église connaît des problèmes, des difficultés. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, ceux qui étaient dispersés, c'est-à-dire ils fuyaient la persécution, allaient de lien à lien. Mais comment? En annonçant la bonne nouvelle de la parole. Hein? Alors imaginez comment ils fouillaient. Des réfugiés en train de fuir, mais en train de faire quoi? Ah, Dieu donne-nous ces gens qui vont aller au travail, mais en train d'annoncer la parole. Des gens qui montent la moto, mais en train d'annoncer la parole. Des gens qui travaillent, mais avec la parole. C'est la responsabilité de tout chrétien. La troisième chose qui fait à ce que la parole de Dieu n'ait pas d'impact, et ça, c'est très important, c'est que les gens n'ont plus soif de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, soif de la parole de Dieu. Là où il y a la soif, il y a les désirs. Là où il y a la soif, il y a la volonté de chercher. Là où il y a la soif, il y a l'urgence. Sans la soif, il n'y a pas d'urgence. Sans la soif, on peut mourir. J'aime beaucoup Psaume 119, verset 162. Le psalmiste dit ceci. J'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand pitain. Imaginez, je vais utiliser les termes de Gomme. Jouakal, en train de chercher un mourongo. Quand tu trouves ce mourongo-là, comment tu te sens? Hein? Tu es dans la joie, ta journée est assurée. Alors le psalmiste dit, j'ai de la joie en ta parole comme un homme qui trouve un grand. J'ai tellement soif de cette parole que lorsque je l'ai, j'ai l'impression que tous mes problèmes sont. Est-ce que la parole de Dieu est une priorité pour nous? Avons-nous soif de la parole de Dieu? Vous savez, il y a des gens, la parole de Dieu est un somnifère. C'est-à-dire, quand il veut dormir, il ouvre la Bible et puis il commence à lire à un certain moment. Et d'autres, ils lisent la parole de Dieu quand ils n'ont rien à faire. Quand ils ont quelque chose à faire, ils ne lisent pas. Quelle est la place qu'occupe la parole de Dieu dans votre vie? Est-elle prioritaire ou un accessoire? Frères et sœurs, la parole de Dieu doit être prioritaire. Et Dieu m'a dit clairement lorsque je priais à 4 heures, il m'a dit cette semaine, les hommes qui ont soif, il va les transformer par sa parole. Le problème c'est que nous n'avons plus soif de la parole de Dieu. Souvent nous venons à l'église parce que nous manquons quoi faire. Parce qu'il n'y a pas du courant pour regarder les séries télévisées. Nous venons à l'église. Pourquoi vous êtes là ce matin? Si vous avez soif
cette parole aura de l'impact dans votre vie.
Mais si vous n'avez pas soif, vous êtes venu perdre votre temps. Il est temps que nous puissions avoir soif de la parole de Dieu. Dans Psaume 1, verset 1 à 2, j'aime ce que le psalmiste dit. Il dit, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi. » En d'autres termes, ce qui lui fait du bien, c'est quand il lit la loi. Qu'est-ce qui te fait du bien? Il y a des gens que ça leur fait du bien quand ils sont sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter. Mais quand il faut lire la parole de Dieu, il regarde, il dit, mais qu'il termine vite, que je m'en aille. J'ai toujours posé cette question. Lorsqu'il y a match de football, ça fait combien de minutes? Quand l'arbitre augmente 5 minutes, y a-t-il des joueurs qui se plaignent? Mais pourquoi est-ce que nous nous plaignons quand il y a 5 minutes qui se dépassent parce que le prédicateur a débordé? Le problème, c'est parce que nous n'avons pas soif de la parole de Dieu. La quatrième. Mais avant même que je parle de cette quatrième, j'aime ces qualités des chrétiens que la Bible nous parle dans Actes 17, versets 10 à 11. Ces hommes qui avaient soif de la parole de Dieu. Actes 17, 10 à 11. La Bible nous parle des chrétiens de Bérée. Dis à ton voisin, les chrétiens de Bérée. Regardez ce que ces chrétiens de Bérée faisaient. Ils avaient soif de la parole et ils venaient chaque fois dans les assemblées pour écouter la parole de Dieu. Mais ils ne s'arrêtaient pas par là. Ils prenaient note. Et puis, regardez ce qu'il faisait. Il rentrait à la maison et il vérifiait est-ce que ce que le prédicateur a dit est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soif. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus les chrétiens bérés. Je peux même citer un verset ici qui est faux, mais vous notez tout simplement. Et il n'y a personne qui revient dire, bon, pasteur Vincent, ce que le prédicateur a dit là, c'est faux. Pourquoi? Il n'y a plus soif de la parole de Dieu. Je nous pose une question, répondez dans vos cœurs. Combien ont révu les messages d'hier? Combien sont arrivés à la maison et ils ont commencé à relire? Déjà, comment vous allez relire pendant que vous n'écrivez pas? Il y a d'autres, leur cœur est devenu comme un ordinateur. La quatrième et la dernière chose est la plus malheureuse. La plus malheureuse des choses. C'est qu'il n'y a plus d'auditeurs de la parole de Dieu, mais moins des pratiquants. Nos églises sont pleines de gens qui écoutent la parole de Dieu. Mais combien pratiquent cette parole-là? Les gens ne se limitent qu'à écouter, à prendre note, à écrire dans leur carnet. J'aimerais dire une vérité. Cette semaine, tout ce qu'on vous dira, si vous vous arrêtez qu'à écrire dans les carnets, cela ne vous servira à rien. Le message de cette semaine aura de l'impact dans votre vie que si vous le mettez dans votre carnet, mais surtout que vous le gravez dans vos cœurs, c'est-à-dire que vous le pratiquez. Jacques dit ceci dans Jacques 1er, verset 22 à 25. Regardez comment il commence. Il commence par l'impératif. Ceux qui ont fait les bonnes écoles connaissent que l'impératif, ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Ce n'est pas si je veux. Ce n'est pas si je peux. Mais je suis obligé. Et il dit ceci, mettez en pratique la parole de Dieu. Et il ajoute, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. J'aime le verset 25. Il dit, celui qui plonge, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais mettant à l'œuvre ce qu'on lui a dit, celui-là sera erré dans son. Frères et sœurs, écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais la pratiquer, c'est mieux encore. C'est un grand danger lorsque nous écoutons la parole de Dieu. J'aimerais nous parler ce matin. Combien de fois nous avons écouté la parole de Dieu qui a dit ne ment pas, mais tu continues à mentir. Tu écoutes la parole de Dieu, te dit ne triche pas, mais tu continues à tricher. Tu écoutes la parole de Dieu, te dit ne corromps pas, mais même cette journée, tu as déjà un projet pour. Le problème, c'est que nous écoutons seulement, mais nous ne mettons pas en pratique. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu prêcher à quelqu'un et dire Dieu n'est pas ton grand-père. C'est vrai, il te supporte encore, mais le temps vient où il ne te supportera plus. Je suis venu dire à cette église, si vous voulez que je vous prêche cette semaine, le plus important n'est pas ce que vous allez écouter, mais le plus important, c'est de pratiquer ce que vous allez écouter. Ça ne sert à rien qu'on ait une grande activité comme celle-ci, mais qu'on ait moins de pratiquants. Je prie que chacun de nous en sortant ici, qui se décide de commencer à pratiquer la parole de Dieu. J'aimerais m'arrêter par là. J'aimerais que tu coupes ta tête en prière, que tu commences à parler à Dieu. Que tu dises à Dieu, je veux être un pratiquant de la parole de Dieu et non un auditeur. Est-ce que quelqu'un peut déjà élever sa voix et parler à Dieu? Dis Seigneur, je ne veux pas être de ceux-là qui entendent la parole de Dieu, mais je veux être de ceux-là qui non seulement entendent, mais qui pratiquent la parole. J'aimerais que quelqu'un prie là où il est, qui dit Seigneur, j'aimerais être du nombre de ces hommes et femmes qui prêchent la parole de Dieu. J'aimerais être un prédicateur de la vérité qui annonce les oracles de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin avant que je ne remette le micro? J'aimerais voir des hommes et des femmes qui parlent à Dieu, des hommes et des femmes qui parlent à Jésus, qui disent Seigneur, ce matin j'ai entendu ta parole, j'aimerais mettre cela en pratique. Si tu es pasteur, tu vas dire Seigneur, ne permets pas que je monte du haut de la chaise pour annoncer mon histoire, pour annoncer mes idées, mes pensées, me permets que chaque fois que je me mettrai du haut de la chaise, que ce soit pour annoncer les oracles de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Seigneur, ne permets même plus que je monte du haut de la chaise pour que les gens me voient. Seigneur, ne permets plus que je monte du haut de la chaise pour que j'aie un nom. Ne permets plus que je monte du haut de la chaise pour me fabriquer une personnalité. Seigneur, je prie pour cette église. Je prie pour Goma West. Donne-nous des chrétiens qui annoncent la parole de Dieu. Donne-nous des chrétiens qui vivent la parole de Dieu. Donne-nous des chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous des chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu. Donne-nous des chrétiens de béret, des hommes qui non seulement ont soif de la parole de Dieu, mais des hommes qui rentrent pour vérifier si ce qu'on est enseigné est vrai. Donne-nous ces chrétiens, donne-nous ces âmes de chrétiens, cette qualité de personnes, oh Dieu, qui entendent ta parole, mais qui ont soif. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je soif de ta parole? Est-ce que quelqu'un peut dire comme les flamistes, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Seigneur, je soif de toi. Seigneur, je soif de ta parole. Seigneur, je soif. Soif de ta parole. J'aimerais prier pour une catégorie de personnes. J'aimerais dire, prédicateur, la soif de la parole a disparu. Je n'ai plus le temps de méditer. Je passe des journées en train de chercher à manger aux enfants. Souvent, quand je viens lire la Bible, c'est seulement quand je suis à l'église. Mais lorsque je sors, je n'ai plus ce temps-là. J'aimerais ce matin que Dieu crée cette soif de la parole à moi. Si vous êtes là, levez-vous, je vais prier avec vous. Vous êtes un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et je vis particulièrement des hommes de Dieu ici qui ne lisent plus la parole de Dieu. Il y a des hommes de Dieu ici qui lisent la parole pour les autres. Chaque fois qu'ils lisent, ils disent, je vais aller prêcher ça à Goma West. Mais cette parole n'apporte pas un plus dans leur vie.
J'aimerais dire ce que ces feux serviteurs de Dieu Vernon disait.
Ne faites jamais de la Bible un instrument de travail, mais faites de la Bible un ami.
Un ami. Y a-t-il des gens qui ont encore soif de la parole de Dieu ou qui aimeraient dire que le prédicateur, cette soif a disparu?
Levez-vous là où vous êtes, je vais prier avec vous. Levez-vous, n'ayez pas peur. C'est pour vous que ce séminaire a été organisé. Merci mon frère, nos yeux sont fermés. Le Seigneur m'a montré qu'il y a plusieurs qui doivent se mettre debout. D'autres auront même du mal à se mettre debout, mais il m'a dit, insiste, insiste. Depuis un temps, tu écoutes la parole de Dieu, ça c'est le deuxième appel. Tu écoutes la parole de Dieu, tu la lis, mais tu n'arrives pas à la mettre en pratique. Tu as du mal à mettre certains principes de Dieu en pratique. Lève-toi, je vais aussi prier avec toi. Lève-toi, je vais prier avec toi. Tu as entendu la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à la pratiquer. J'aimerais élever les mains à l'air pour dire, Seigneur, soutiens-moi. Lève-toi, je veux prier pour toi. N'ayez pas peur. C'est ton jour. C'est pour toi que le Seigneur m'a envoyé. Même si vous êtes à l'extérieur, vous allez juste élever les mains à l'air. Nos yeux sont fermés dans la présence de Dieu. J'entends encore ceux qui doivent se mettre debout, ceux qui doivent s'élever pour répondre à cet appel de Dieu. Tu es un homme de Dieu, mais tu t'es retrouvé en train de mentir du haut de la chair. Lève-toi aussi, je vais prier pour toi. Je vis clairement un homme de Dieu dans cette église qui ne fait qu'impressionner les gens sur la chair. Et des fois, quand il sort de la chair, il dit, waouh, j'ai aujourd'hui prêché. Il veut les acclamations. Depuis un temps, tu as senti l'orgueil commencer à monter dans ton cœur. C'est vrai, Dieu t'utilise. Lève-toi aussi, je vais prier pour toi. Lève-toi, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ces hommes qui sont debout. Et merci pour ce message que tu nous as amené ce matin. Je prie que tu les bénisses. Je prie que cela nous transforme, que cela apporte un plus dans nos vies. Je voudrais inviter notre pasteur pour prier pour nous. Avant qu'on donne le micro à deux personnes qui auront des questions, il va prier pour ceux qui sont debout, pas seulement pour ceux qui sont debout, mais pour toute l'église. Que Dieu nous donne des chrétiens libérés dans cette église. Des hommes qui ont tellement soif de la parole de Dieu qu'ils la lisent matin, midi, soir. Je parlerai de Josué 1:8 dans les jours qui viendront. Où Dieu dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Mais dites-les jour et nuit. J'insiste, il y a des hommes qui n'ont plus la vie des méditations de la parole. Qu'ils se mettent, s'il vous plaît. Votre méditation. Avant, vous aviez une discipline dans la méditation de la parole de Dieu. Mais depuis un temps, vous vous retrouvez, au lieu de lire chaque jour, vous commencez à lire une fois la semaine. La méditation, la discipline de la méditation de la parole de Dieu a diminué. Levez-vous, je vais prier avec vous. Le pasteur va nous amener dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, je vous attends. Je vous attends.
Seigneur, notre Dieu, tu nous fais du bien. Du bien parce que ta parole est puissante, elle est énergique. C'est par elle, Seigneur, que tu transformes les vies des hommes et des femmes qui ont décidé de prendre du temps, d'avoir du temps pour méditer ta parole. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que ce matin, tu nous interpelles pour que nous puissions entretenir la soif de la parole de Dieu dans nos vies. Et ils sont peu nombreux, Seigneur, qui ont perdu cette soif-là. Ils sont nombreux, Seigneur, qui ont encore le temps de méditer ta parole chaque matin. Ils sont peu nombreux, Seigneur, qui se réveillent très tôt pour commencer la journée avec toi, Seigneur, en méditant ta parole. Ils sont aussi peu nombreux, ceux qui mettent ta parole en pratique. Nous avons une génération d'hommes et de femmes, des garçons et des filles, désormais, qui n'ont même pas le temps de partager avec les autres les bénédictions qu'ils ont reçues le matin. Seigneur, nous voulons que tu bénisses tes bien-aimés. Tu connais chacun dans sa situation. Tu connais chacun dans son élan de cœur. Tu connais chacun à quel niveau il a perdu le repère parce que la parole de Dieu n'a plus de place dans sa vie. Nous voulons te recommander ces bien-aimés, Seigneur, afin que tu accordes la grâce de sentir ta puissance envahir leur vie et que ta parole, parole de vie qui donne la vie, reprennent encore de la place dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur, afin que nous puissions les voir se discipliner pour méditer ta parole chaque jour. Il y en a, Seigneur, qui veulent méditer la parole, mais qui ne la comprennent pas. Nous voulons que ton Esprit Saint agisse, qu'il pénètre leur cœur, qu'il pénètre cette parole, qu'elle transforme cette parole de l'imprimerie, Seigneur, afin qu'elle soit parole de vie et qu'elle change le cœur de nos bien-aimés, qu'elle change le cœur de cette Église, chacun en particulier, afin que nous prenions le temps de commencer chaque jour nos journées avec le Seigneur, dans la méditation, dans la prière, dans l'intercession, afin que cette parole retrouve la place qui lui revient de droit dans nos vies. Bénis ces bien-aimés. Tu connais leur façon de lire la Bible. Tu connais à quel niveau ils ont failli. Tu sais aussi à quel niveau ils veulent désormais prendre du temps dans l'écoute de la parole de Dieu. Bénis-les, soutiens-les, fortifie leur foi et permet qu'ils retrouvent en quoi cette parole est un ferment transformateur. Qu'elle transforme leur façon de vivre, qu'elle transforme leur façon de voir le monde, qu'elle transforme aussi leur façon de se voir eux-mêmes, mais surtout qu'ils aient une belle vision de Dieu dans leur vie par rapport à la parole, ce que la parole va opérer désormais dans leur vie. Bénis ces instants, Seigneur, et permet que la parole de ce matin nous atteigne, afin qu'elle nous change, qu'elle nous transforme, que nous prenions le temps pour toi, et que nous ayons le temps pour méditer ta parole, Seigneur, mais aussi pour la partager avec d'autres, comme cela était le cas il y a des années. Nous prions que ce réveil vienne, que nous puissions nous sentir réveillés par toi, Seigneur. Bénis chacun de nous et permets que ton Esprit Saint soit à l'œuvre. Que ta grâce puisse opérer pour que cette parole de ce matin puisse avoir un impact, un retentissement dans la vie de chacun de nous pour toujours. Au nom de Jésus, te prions.